What?
Radio Clash on Pirate Satellite.
Idiots in the chair.
Not nip.
What? Britain?
Not nip.
Vous êtes sur Radio Campus Paris dans votre émission What Bottom et je suis avec Émile Sornin, tête pensante du groupe Forever Power. Alors Émile, Forever Pavot a bien avancé depuis ses premières sorties enregistrées en 4 pistes cassette et 8 pistes à bande. Tu as tâtonné, titillé tous tes synthés analogiques, joué avec tes effets et tes magnétos à bande. Aujourd'hui, Forever Pavot sort son premier LP, Rhapsode, chez Born Bad Records. Alors sans être figé, est-ce que tu te sens fixé dans un certain processus de création? Je veux dire abouti artistiquement dans le sens où tu as maintenant trouvé une formule qui marche.
J'ai trouvé une formule qui marche, bah c'est cool si tu me dis ça. L'album s'est étalé sur 2 ans, l'enregistrement a mis beaucoup de temps, j'ai beaucoup évolué, que ce soit en technique d'enregistrement ou même en technique au niveau des instruments sur ces 2 années. Donc même ma méthode a vachement évolué d'il y a 2 ans à aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui j'ai un espèce de processus, c'est-à-dire que j'enregistre on va dire 1 à 2 chansons par semaine. Je suis assez boulimique de l'enregistrement et de la composition, et après je garde ce qui me paraît le meilleur au bout d'un certain temps, quand j'ai un peu de recul, quand je réécoute les enregistrements que j'ai fait. Mais écoute, si tu as trouvé que j'ai réussi à trouver une recette qui fonctionne, tant mieux.
Bon, tu es très clairement influencé par la musique de films, notamment par des gens comme Ennio Morricone ou Jean-Claude Vanier, on t'en parle souvent d'ailleurs. Comment arrives-tu à faire transparaître ton rapport exigu à l'image dans ta musique? Parce que chaque chanson inspire vraiment des paysages, une sorte de traversée. Alors pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un disque, donc par définition un objet musical sans image, peut t'emmener visuellement quelque part ou pas?
C'est une bonne question, je sais pas. Pas trop quoi répondre, parce que c'est finalement moi je calcule pas ce que je fais, je me dis pas tiens je vais faire une chanson qui va évoquer le désert ou les pirates, j'en sais rien, tu vois. Je compose ce que j'ai envie de faire et généralement c'est très influencé de ce que je peux écouter et notamment évidemment la musique de film, parce que c'est des choses que j'écoute énormément en boucle à la maison. Il y a aucun calcul, je sais pas comment expliquer ça, je compose et en plus il y a des chansons qui peuvent être très pop et qui évoquent pas forcément un univers cinématographique ou des histoires, donc je pense que ça dépend des chansons, ça dépend de mon humeur et de ce que j'écoute.
Puisqu'on est dans l'image, je voudrais qu'on parle un peu de la pochette de l'album, dont j'adore l'esthétique. Ça me fait penser aux albums Trépas et Foxtrot de Genesis, voire parfois du Lewis Carroll, avec cet aspect enfantin mais quand même un peu malsain, mais aussi à l'album Travelogue de Joni Mitchell, avec cet aspect de portrait-dessin. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail d'artwork?
C'est Catherine Hershey qui a dessiné cette pochette, c'est du crayon de couleur. Et Catherine Hershey, qui est une artiste que j'adore, qui chante aussi sur l'album, sur 2 chansons, qui chante sur Joe and Rose et sur Rhapsode. En fait, Catherine, je suis allé chez elle un jour, elle était en train de dessiner le portrait de son fils, qui s'appelle Louis. Et j'ai adoré ce portrait, j'ai trouvé ça magnifique au crayon de couleur, et je lui ai dit, tu voudrais pas faire un portrait de moi? Et en pensant éventuellement à une pochette ou un visuel, je savais pas trop encore. À la base, ça devait être ma tronche sur les EP. Et au début, j'assumais pas trop. C'est toujours un peu bizarre de se voir, surtout en dessin. Du coup, je suis revenu sur ma première position en lui disant que ce que j'avais vraiment adoré, mon premier coup de cœur, c'était le portrait de son fils. J'ai sorti les 2 premiers EP avec le visage de Louis. Et donc 2 ans après, je voulais continuer à travailler avec elle. Je lui ai demandé de dessiner autre chose, un espèce de décor avec des personnages un peu bizarres. Et en fait, c'est l'insert qu'il y a dans la pochette du vinyle. Et ça devait être à la base la pochette du disque. Et en revoyant le portrait, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'assumer un peu ce truc-là. Et c'est aussi une discussion avec JB Bornbad qui me disait que c'était plus intéressant de me mettre en avant. Et du coup, j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Et donc, je regrette pas. Je trouve que ça met les choses plus ou moins au clair, entre guillemets, dans le sens où c'est un album de mes compositions où j'ai enregistré tous les instruments un par un. Ça me positionne un peu plus en tant que, comme on dit, songwriter ou compositeur. Et je suis bien content du travail qu'a fait Catherine parce que c'est hyper impressionnant, c'est du crayon de couleur, quoi. Je répète encore une fois, c'est assez impressionnant.
On va sortir de l'image pour revenir sur l'aspect purement musical. On parlait par exemple de Jean-Claude Vanier tout à l'heure. Alors oui, il y a une nette influence de la musique de film, des fuzz noyés dans une bonne dose de réverb, l'utilisation du clavecin façon François de Roubaix. Mais personnellement, je te retrouve bien plus dans le son anglais de l'école de Canterbury par exemple, avec une batterie assez aérienne, un peu jazz mais en même temps très chaude, beaucoup de sons de piano genre Rhodes, un peu saturés, qui partent dans des échos mouvants genre Roland. Bref, plus donne des groupes comme Matching Moll, Hatfield and the North, War Caravan et les premiers Soft Machine. D'ailleurs, vraiment dans le premier Matching Moll, est-ce que c'est une école aussi dans laquelle tu te reconnais ?
Oui, bien sûr. Les Anglais, les deux premiers Soft Machine, c'est des disques qui ont tourné en boucle chez moi, que j'aime beaucoup. Évidemment, le Robert Wyatt et tout ce qu'il a pu faire après aussi me touche vachement. Ouais, il y a ce truc-là qui se retrouve sûrement dans mes compos. Le côté, peut-être, je sais pas, des batteries un peu plus jazz ou... l'expérimentation en règle générale qui me plaît beaucoup dans le rock progressif. Machine Moll, j'ai pas beaucoup écouté, mais il faut apparemment. Mais en effet, les premiers Soft Machine, c'est des trucs qui pour moi m'ont énormément marqué. Et je pense que ouais, ça doit se ressentir un petit peu, même au niveau de ce qu'a pu faire Robert Wyatt. Les mélodies de chant, les trucs comme ça, c'est des trucs qui, je pense, m'ont influencé beaucoup.
Je voudrais qu'on parle maintenant de ton travail sur la matière sonore en tant que telle. Tu utilises bien sûr plein de vieux synthés, Rhodes, Minicorg, Filicorda, beaucoup de reverb et surtout un max de flangers, ça t'aimes bien les flangers. T'es un peu un artisan du son, si je peux me permettre le terme. Alors comment tu travailles tout ça ?
Alors je vais remettre les choses au clair. Le flanger, il n'y en a pas tellement. Il y en a un petit peu, il y a une partie où c'est très très visible, c'est sur le passeur d'armes. Il y a un passage, une espèce de solo de batterie avec un flanger. Ça, c'est, j'adore, je trouve ça hyper, hyper joli le flanger sur de la batterie nue. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, évidemment, les trémolos, les fuzz, tous ces effets-là, c'est des trucs qui font énormément penser à la fin des années 60, début 70, la reverb, ce genre de... un peu abusé, la reverb ressort et tout ça, c'est des trucs que j'adore, qui permet finalement de me mettre dans une ambiance, te rappeler, ou même le son des mélotrons, ça te rappelle tout de suite une certaine époque, et ça j'adore en fait. Ouais, comme pour reparler de Soft Machine ou de Robert Wyatt, il y a un truc de la bidouille souvent, du côté un peu instinctif, que j'essaye d'avoir dans mes compositions, dans mes enregistrements, mais encore une fois, il n'y a pas de calcul. Je me dis, quand j'enregistre quelque chose, je me dis pas à l'avance, tiens, je vais essayer de mettre le flanger. Tu vois, par exemple, cette chanson, le passeur d'armes, le flanger sur la batterie, c'est arrivé vraiment en tout dernier. J'ai laissé cette piste de batterie et j'avais pas du tout pensé à mettre un effet par-dessus. Je voulais peut-être mettre des synthés. Puis au dernier moment, j'ai testé ce truc-là, ça m'a plu. Donc c'est plus du feeling ou sur l'instant. Dans les enregistrements, et c'est pas du tout calculé pendant la composition ou quoi. Et je pense que c'est ça qui rend le truc un peu plus inattendu, je sais pas, ou qui rend le truc un peu, je sais pas comment dire, instinctif, artisanal.
Bon, je pense que tout le monde a bien compris que tu te référais vachement aux années 60-70, mais aujourd'hui, t'es vraiment pas le seul, puisqu'on observe un vrai retour aux vieilles machines, au mode analogique et tout ce qui va avec. Pour beaucoup de groupes, je trouve que c'est surtout l'aspect vendeur qui prône, ce côté mi-geek, mi-hipster, carrément agaçant parfois, avec juste une petite toute vintage bien placée. toi t'es vraiment à 100%, c'est pas du tout dans le même cadre, on sent bien que c'est pas juste une image de marque. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect cyclique de la musique qui fait que tous les 20-30 ans, on revient à certaines sources, et en ce moment plus spécifiquement à celle des 60s-70s?
Il y a peut-être un espèce de ras-le-bol d'entendre toujours un son un peu froid, un truc un peu numérique, et tout ça. Après, tu vois, moi, il y a certaines chansons que j'ai enregistrées avec mon ordi et pas forcément des bandes. Mais je pense que c'est plus dans la démarche ou dans la façon d'enregistrer ou au-delà du côté analogique des bandes et tout ça, il y a un truc aussi de one shot d'enregistrement. Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant de laisser toutes les petites erreurs, les trucs imprévus, plutôt que tout nettoyer, que tout soit parfait, tout propre, tout beau. Et je pense que les gens aiment de plus en plus ce côté-là, ce côté pas sincère, c'est pas de la sincérité, mais un peu moins froid, quoi, un truc où t'as l'impression d'entendre ce qui se passe dans le studio, tu vois, les craquements de la chaise, j'en sais rien, les pas dans le studio, ce genre de truc. Les gens aiment bien se sentir comme s'ils étaient à côté de l'artiste, je pense, ou je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a un ras-le-bol d'avoir entendu un peu le même type de son, le même type de production, et il y a un côté un peu étonnant ou qui rappelle une époque que certaines personnes aiment beaucoup, qui est la fin des années 60-70, où il y a vraiment un son très particulier, et je pense que ça plaît parce que ça paraît nouveau pour une génération, mais en même temps ça rappelle quelque chose. Comme tu dis, c'est un cycle qui tourne. Après, le son, la production, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses où les gens se branlent sur des trucs qui sont enregistrés sur cassette. Je pense que c'est la démarche qui est intéressante, mais comme on peut avoir dans l'argentique où t'as un truc un peu plus one shot, c'est un peu moins du zappé, tu vois, c'est un truc plus humain, je sais pas si on peut dire ça.
Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de cet aspect effet de mode, vendeur des années 60-70, enfin, même, bon, rien à voir, mais des choses comme le terme psyché qui aujourd'hui veulent tout et rien dire et au final qui sont parfois plus là pour être utilisés comme image de marque qu'autre chose.
Psyché, c'est pas un style de musique, j'ai pas l'impression. Tu vois, déjà à l'époque, il y avait déjà un gouffre entre des groupes comme Soft Machine ou 13 Floor Elevator. Pour moi, c'est deux groupes complètement différents qui sont connotés psyché. Donc tu vois, aujourd'hui, on va te dire le psyché, c'est Tame Impala ou Black Angels, et c'est encore deux trucs super différents. Je sais pas, moi je me sens pas plus psyché qu'influencé par la pop 60s. C'est l'époque aussi, c'est la fin des années 60, début 70. C'est la période psychédélique, l'âge d'or et tout ça. Mais en même temps, il y a toute la sunshine pop qui est très intéressante, la musique de film qui est pas forcément, on va dire, qui est connotée psyché, mais pas, finalement pas plus que ça. Donc c'est une histoire de mode. Et si des gens aujourd'hui peuvent être un peu plus curieux et s'intéresser à cette période, je trouve ça chouette. Après, si c'est juste une mode, bah tant pis. Ils écouteront autre chose dans deux mois et puis et ils seront contents.
Et pour ta part, le filon années 60-70, tu le considères vraiment comme un côté nostalgique, genre c'était mieux avant, ou c'est plutôt un hommage en t'inspirant de toi, tout ce que t'aimes, et essayer de le sublimer en le renouvelant?
Je pense que c'est plus de l'hommage, ouais. Moi je suis pas bloqué là-dedans, justement, au contraire, j'écoute plein d'autres trucs. Après, il y a beaucoup de groupes assez récents qui s'influencent de ça, qui me parlent beaucoup. Les groupes comme Broadcast ou même des groupes d'aujourd'hui, hein, je sais pas, les Dorian Pimpernel ou Aqua Serge sont un peu aussi là-dedans. Même s'ils ont un son très personnel, il y a un truc qui vient de l'hommage à la musique rétro et tout ça. Et pourtant, il y a forcément un son très, très old school, c'est juste les instruments et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des sonorités qui me plaisent, qui me rappellent des trucs que j'écoute beaucoup. Mais voilà, après, ça m'empêche pas d'écouter du... Enfin, voilà, j'ai beaucoup écouté de hip-hop, de punk hardcore, de reggae, de jazz.
L'album Rhapsode de Forever Pavot est donc sorti chez Born Bad Records il y a très peu de temps maintenant, à se procurer chez tous les bons disquaires. Et pour retrouver Forever Pavot en live, la prochaine date, ce sera au Transmusical de Rennes le 3 décembre, puis le 6 décembre à Bordeaux. S'en suivra une tournée au Royaume-Uni. Et pour retrouver les dates suivantes, je vous invite à vous rendre sur le site de Forever Pavot. Et pour une petite information, la prochaine date à Paris, ce sera au Point Éphémère le 11 mars 2015.